Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme tous les week-ends pour le meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Yvan Cujus recevait les Frangines pour leur tout premier passage dans les studios de Sud Radio. Et les chanteuses au disque d'or, qui ne sont pas sœurs mais amies, vous ont proposé un live inédit de leur titre « Devenir quelqu'un ». Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonsoir les Frangines, merci d'être avec nous.
Salut Yvan.
Salut
Yvan, salut Sud Radio.
Bonsoir Sainte, bonsoir Anne. Bonsoir monsieur le guitariste, qui... c'est la première fois qu'il vient dans le Loft, ce jeune homme.
Alors à cette adresse, oui, avant c'était à...
Ah mais oui,
dans
au nord,
le 12e.
Tu étais déjà venu.
Mmh. Oui. On est venu une fois, la dernière fois.
Et t'en gardes un super souvenir.
Ah, évidemment, à chaque fois que je viens...
Non, t'étais pas obligé. Et ce qui est super, c'est que vous allez chanter et jouer ensemble pour la première fois en live, en fait.
Ouais, c'est la première fois chez Sud Radio.
Le Devenir titre, quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais. Devenir quelqu'un qui annonce l'album, le nouvel album des Frangines, apparaître au printemps, hein, c'est ça, un truc comme ça.
Exactement.
Et là, on va voir donc Devenir quelqu'un en live, guitare et deux voix des Frangines. C'est chouette, on va la voir dans quelques secondes. Et quand même, parce qu'on va la libérer de cette pression, elle s'appelle Lucie. Elle s'appelle Lucie Delevalaise. Elle a 14 ans, elle est en face de vous là. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et le Facebook Live du Loft et de Sud Radio. Elle est à côté de sa maman, elle vient de Belgique. Parce que souvenez-vous, lors de votre dernier passage, elle avait téléphoné parce qu'elle est fan de vous, Lucie.
On se souvient très très bien.
Elle nous avait dit, mais je chante moi aussi. Et on lui avait dit, chiche, que la prochaine fois que les Frangines viennent, tu seras là, tu viens dans le studio et tu chantes une chanson devant elle. Elle a dit, chiche, et comme nous on est des dingues, on a tenu parole. Et Lucie est là. Bonsoir ma Lucie.
Bonsoir.
Tu peux parler juste dans le micro rouge, regarde Lucie. C'est ta première radio du coup, toi.
Oui.
Tu jures que t'en as jamais fait avant?
Oui, je jure.
Bon, on te garde, ça. Et elle est venue d'ailleurs avec maman à côté, qui est toute timide aussi, maman. Peut-être que vous pouvez parler dans le micro, madame. Bonsoir.
Bonsoir les Frangines. Salut.
Et bonsoir. C'est assez lunaire pour vous, vous retrouver en face des Frangines, toutes les deux.
Je n'en ai pas non plus.
Vous êtes à deux mètres. J'adore. D'où vient cette passion pour les Frangines, donc de Lucie et de maman, j'imagine aussi, finalement. Vous chantez à deux,
c'est trop chou.
Ah, vous chantez à deux.
On va vous entendre alors.
Je l'aide un peu.
Parlez bien dans le micro. Mais alors,
je l'aide quand elle a besoin.
Oui, un petit coup de main, vous êtes là. Alors, Lucie, d'où vient cette passion pour les Frangines? Tu les as découvertes comment? Parle bien dans le micro.
Je les ai découvertes grâce au making of de leur clip Mon Bagage. Ah. Du coup, maintenant, ça fait 3 ans, je crois, à peu près. Maintenant, tous les jours, j'écoute vos musiques dès le réveil.
Ah, c'est ça, ça fait plaisir.
C'est trop cool, ouais.
C'est super touchant, les filles, ça.
Ah oui, au concert
ça. Oui. Au concert, vous êtes allés aussi?
Ah, vite,
ah, c'est génial, c'est génial. Lucie. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter tout à l'heure, Lucie, des Frangines?
Je vais chanter Si José.
Ah, c'est de circonstance.
Tu nous fais une petite déclat.
J'adore.
Écoute, c'est trop mignon.
On a entendu un mini-bout et ça va être canon.
Ça va être canon. Allez, les Frangines, on vous entend maintenant. D'abord, on vous écoute. Devenir quelqu'un, guitare et de voix avec Simon à la guitare. C'est extrait de votre nouvel album apparaître au printemps prochain. Et c'est ici, en live, dans le Loft Music.
Dans leur prison dorée, des géants de ce monde construisent en papier des chimères et des bombes. Dire que petit enfant on rêvait tout en grand, faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurai cherché mon chemin. Pour enfin devenir quelqu'un de bien. Papalapa, papapapala. Quelqu'un de bien, papalapa, papapapala. Faut réussir sa vie, briller, se faire une place. Ce quel qu'en soit le prix, y'a pas de règle, hélas. Mais qu'a-t-on réussi quand on t'a notre audace? Et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace. Qu'est-ce que moi, je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir quelqu'un. pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien, papa la pa, papa papa la, je vous entends. Papa la pa, papa papa la, quelqu'un de bien, papa la pa. Papa, papa, là, quelqu'un de bien. Papa, là, papa, 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 là. Je ne peux plus respirer, j'ai mon cerveau qui crève. Les écrans de fumée ont enfermé mes rêves. Dire que petit enfant rêvait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant, on s'enferme en dedans. Moi, je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien, papa la pa, papa papa la. Quelqu'un de bien, papa la pa, papa papa la. Quelqu'un de bien, papa la pa, papa papa la. Quelqu'un de bien, papa la pa.
Pa, 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 pa,
là.
Merci.
Frangine, en live avec Simon à la guitare, première fois que vous jouez ce titre sur Sud Radio. Puis vous l'avez pas joué beaucoup en fait, ce titre-là. Il est vraiment tout neuf.
Ah, il est tout neuf. C'est la première fois qu'on le chante à la radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cugius et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h dans le Loft Music avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on revient dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix et leur débat sur les contrôles d'identité. Et avec les invités de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibuste, Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace, et l'astronaute Jean-François Clairvoy. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio, comme tous les week-ends. C'est un plaisir de vous accompagner et de réécouter avec vous des extraits des émissions de la semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Lundi, pendant leur traditionnel débat, Philippe Rossier et ses chroniqueurs Jean Dorido, Yael Mellul et Philippe Bilger et leur invité Denis Jacob, policier et secrétaire général d'Alternative Police, ont donné leur avis sur les contrôles d'identité, en particulier sur cette vidéo de l'affrontement entre une trentaine d'individus et les forces de l'ordre à coups de mortier. Une vidéo qui a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Écoutez.
Contrôle d'identité.
Mais criez pas comme ça, je suis pas sourd.
Je me souviens, j'ai contrôlé un brochant il y a 3 ans.
Un flic.
Quoi?
Derrière nous, un flic.
Merde.
Pourriez-vous me montrer vos papiers, je vous prie?
Je voyage toujours sans
papiers. Pardon? Fais pas ton mariole, toi, sinon contrôle des papiers, tu vas te retrouver au ballon, ça va pas t'aider, hein?
Vous n'avez jamais été contrôlé?
Non.
Je vais tout de même vous contrôler. C'est pas très net tout ça.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
On en débat avec Yael Mellul, Jean Dorido, Philippe Bilger et Denis Jacob, policier secrétaire général d'Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob.
Bonsoir Philippe Rossi.
Bonsoir à vous. Yael Mellul qui est avec nous, Philippe Bilger que vous connaissez. Jean Dorido, tiens, j'aimerais avoir votre réaction, Denis Jacob, sur cette vidéo hein, qui nous a indignés. Tuez-les, tuez-les, une trentaine d'individus à coups de mortier contre des policiers. Ça s'est passé à Poissy samedi dans les Yvelines, Denis Jacob.
Alors, je ne veux pas banaliser mon propos, vous imaginez bien que je suis particulièrement choqué par ces images, mais malheureusement, c'est le lot quotidien des policiers. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un policier d'agresser, de vilipender et à minima d'insulter quand il intervient. Donc pour moi, malheureusement, c'est la routine, c'est la malheureuse réalité du terrain que subissent nos collègues au quotidien dans ces quartiers difficiles.
Ouais, Philippe Bilger, sur ce
alors,
qui s'est passé à Poissy.
Je rejoins bien sûr ce qu'a dit Denis Jacob. Je ne veux pas être plus policier que les policiers. Mais il n'empêche que j'ai l'impression que chaque jour, on a l'impression que notre indignation a atteint le comble et le lendemain, elle est dépassée. Je trouve que, quels que soient les motifs à Poissy, rappelez-vous, le maire avait voulu supprimer certaines allocations. La défenseuse des droits, il faut bien qu'elle se rende utile à quelque chose. Elle propose une chose totalement absurde.
On va en débattre. Ouais.
Et je suis tout de même... je n'ai pas la tolérance obligatoire de Denis Jacob face à ces attaques.
Ah, j'ai pas de tolérance. Hein.
Non.
J'ai pas de tolérance du tout. C'est purement...
Obligatoire.
Philippe, on est
toujours d'accord.
On est toujours d'accord. Non, mais on sent Denis Jacob. Je vois ce que veut dire Philippe Bidjar. On sent que vous baissez un peu les bras, Denis Jacob. Que bon,
non, mais surtout, je voudrais finir.
Oui, allez-y, Philippe.
Résigné, voilà. Ce qui s'est passé à Poissy, il y a non seulement une trentaine de voyous qui s'en sont pris aux policiers, il y a les menaces de mort qu'on n'entend pas tout le temps tout de même, et il y a le fait que tout ça s'est déroulé dans un quartier, dans une commune, où le maire n'a pas l'humanisme écologique genre Grenoble et Bordeaux. Ouais. C'est un maire remarquable qui est très conscient des problèmes de sécurité.
Carl Olive, ouais.
Et pourtant, ouais, ça arrive.
Vous êtes résigné, Denis Jacob ?
Non, je voudrais surtout réagir, mais on est souvent d'accord avec Philippe Bidjar, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être en désaccord, je pense. Je ne suis pas tolérant. Si vous voulez, je suis résigné.
Tolérance pour obligatoire.
Oui, ben, obligatoire, bien sûr, parce que je suis tellement résigné, parce qu'on a tellement des propos publics d'hommes politiques, d'associations, de personnalités publiques comme la Défenseur des droits, qui tiennent des propos qui peuvent laisser le sentiment que, ben, allons-y, de toute façon, on n'aura rien, on peut mettre plein la tronche des flics. De toute manière, on est soutenu par la médiatisation politique du sujet. Quand on a un monsieur Mélenchon qui, encore, il y a 24 heures, 48 heures, qui tenait des propos scandaleux vis-à-vis de la police en disant il faut les désarmer. Mais quand on a ce genre de propos, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'impunité dans ce type de quartier, puisque quelque part, on soutient leurs actions. Ceux qui seraient pour le désordre républicain, ce ne sont pas ces individus dans la voie de certains politiques ou associations, c'est les policiers. Donc, tant qu'il y aura ce discours où c'est les policiers qui ont tort, c'est les policiers qui sont hors la loi et pas les autres, eh bien, ça montera crescendo sans cesse.
Alors, sur ce que propose la Défenseur des droits, hein, c'est ce qu'elle a proposé la veille de l'agression, donc, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'elle dit, dans certains quartiers de banlieue, plus de contrôle d'identité, stop au contrôle d'identité, c'est toujours les mêmes qui se font contrôler, c'est ce qu'a sous-entendu la Défenseur des droits, mais surtout son argument, c'est de dire que 95% des contrôles d'identité ne servent à rien. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à Claire Hédron, Denis Jacob ?
Ben, je pense que je suis particulièrement déçu du comportement du Défenseur des droits, mais là aussi, je veux pas être résigné sur ce sujet-là, mais on a déjà eu affaire à Jacques Toubon précédemment.
Oui,
on était déjà dans la même lignée. Il y a quelqu'un qui a très bien fait son travail de manière impartiale et objective, c'était Dominique Baudis.
Oui.
C'était un défenseur des droits qui restait équilibré dans la mesure et qui savait prendre en compte tous les paramètres du problème. Là, on est plus dans une démarche dogmatique, idéologique, donc politique, et qui fait que, eh bien, il faut répondre à une bien-pensance. Moi, je suis scandalisé, je trouve qu'une telle proposition est irresponsable, parce que, tout d'abord, la Défenseur des droits présente le contrôle d'identité comme un outil de répression. C'est pas un outil de répression, le contrôle d'identité, c'est un outil de prévention et de dissuasion qui permet de perturber les trafics, qui permet de rassurer la population, et puis Philippe Bidjar pourrait le dire, puisqu'il a été dans l'univers de la justice, quand même, la majorité des contrôles d'identité sont demandés par un procureur de la République, quand même. C'est sous couvert et sous l'autorité de la justice qu'on les fait. On ne les fait pas comme ça, par envie. On les fait parce qu'on nous signale des incidents, on nous signale de la délinquance, on nous signale des trafics, et on fait des contrôles d'identité répétés pour casser le rythme de ces trafics, le temps que l'enquête qui se déroule derrière pour identifier les auteurs et remonter jusqu'à la tête du réseau, soit totalement démantelé.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix, les chroniqueurs et leurs invités. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Pour cette émission en direct de la Cité de l'Espace, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Jean-Baptiste Desbois, son directeur général, et Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne et président de Novespace, un invité exceptionnel puisqu'il est le cinquième Français à avoir été dans l'espace. Écoutez.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Et on vous l'annonce depuis le début de la matinée. Regardez, on y est presque là.
On est
là-haut, très loin, très loin, très loin, direction Mars pour cette édition spéciale mission Mars jusqu'à 10h. On va bien sûr parler de l'atterrissage de Perseverance, le rover de la mission Mars 2020 de la NASA qui va se poser sur la planète rouge ce soir vers 22h, heure de Paris, après 6 mois de voyage. Et on est en duplex avec notre envoyé spatial, journaliste très bien entouré, Christine Bouillot, en direct de la Cité de l'Espace de Toulouse avec de nombreux invités. Bonjour Christine.
Bonjour Christine. Et bonjour à vous, bonjour tout le monde. Effectivement, on est en direct de la cité de l'espace, alors qui exceptionnellement, vous vous en doutez bien, est fermée au public. Bah oui. Mais on a cette chance inouïe. Et si vous allez sur la chaîne YouTube, d'être effectivement aux côtés de la réplique de ce fameux robot Persévérance. Vous connaissez le dessin animé Wall-E ? Voilà, oui. Il y ressemble un tout petit peu. Il est un peu plus gros,
il
je trouve.
Il est plus gros, plus grand, ouais.
Un peu plus gros, un peu plus grand, et a beaucoup plus de techniques dedans. Et en tous les cas, oui. On va en parler pendant cette heure-là. Et c'est effectivement avec beaucoup d'invités, ça va être passionnant. Ouais. On va vous envoyer des ondes positives avec ce petit robot.
On voilà. De la hauteur.
Exactement. Et avec, avec nous, à vos côtés en tout cas, Christine, deux invités déjà pour commencer, Jean-Baptiste Desbois, qui est directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse, et puis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, président de Novespace, cinquième Français à avoir été dans l'espace. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue donc sur Sud Radio, Jean-Baptiste Desbois. Christine en parlait à l'instant, c'est vrai que c'est un contexte forcément un peu particulier en ce moment pour la Cité de l'Espace, privée de ses visiteurs, de ses curieux visiteurs. J'imagine que ça doit faire bizarre, forcément.
Évidemment, on a qu'une seule envie, c'est de retrouver les étoiles dans les yeux de notre public. Mais c'est ainsi. Et nous cherchons bien évidemment à faire vivre, de toute façon, l'actualité spatiale et toute cette vie des missions spatiales que font vivre des gens comme Jean-François, comme les ingénieurs, comme les agences spatiales auprès du public, par des émissions comme la vôtre, par des délocalisations d'antennes, par des animations que nous proposons sur notre site internet, de façon à ce que le public puisse suivre ça. Et on se prépare bien sûr à la réouverture. Nous avons un terrain martien qui est en cours de construction et qui est une installation pérenne pour les années prochaines, qui va ouvrir pour l'été, qui permettra au public de voir comment vont rouler, travailler Persévérance, le robot de la NASA, et Tianwen 1, le robot chinois. Et puis beaucoup d'animations, des labos pédagogiques auprès des scolaires. Donc beaucoup de choses auprès du public, autrement, d'une autre façon aujourd'hui. Mais on a bien sûr qu'une espérance, c'est de retrouver le public très rapidement.
Je crois qu'on va pouvoir suivre d'ailleurs sur votre site internet l'atterrissage sur Mars de ce rover Persévérance, c'est ça hein ?
Absolument, tout à fait, à partir de ce soir, puisque donc vous savez que Persévérance va arriver, alors entre guillemets, à 21h55. Vous savez qu'il y a le décalage de temps, donc on est dans le temps de réception des informations depuis mars. Il y a à peu près 11 minutes de décalage. Mais effectivement, sur le site internet de la Cité de l'Espace, le public va pouvoir suivre à la fois les vidéotransmissions de la NASA, du CNES, et également des animations, des laboratoires, des petits labos, des petites expériences de labos, pour montrer l'atmosphère martienne, pour expliquer la gravité sur Mars, pour comprendre le sol martien. Voilà, toutes ces petites choses, comprendre les missions qui vont être réalisées par Persévérance.
Une cité qui est faite aussi pour créer des vocations aussi. Jean-François Clairvoy, on aimerait vous faire justement réagir sur cette question du jour, ce sondage qu'on pose à nos auditeurs depuis 6h30 du matin. La conquête spatiale vous fait-elle encore rêver ? Étonnamment, chez nos auditeurs, à 61%, ils nous répondent non. Comment vous expliquez-vous cette crise du rêve spatial, alors que vous, j'imagine que ça vous fait forcément toujours rêver. On parlera de ce grand rêve martien aussi. Est-ce que c'est lié peut-être à cette crise-là sanitaire qui nous ramène dans une dimension plus terre-à-terre ? Comment vous l'expliquez ?
Oui, c'est un peu indirectement à ce que disait Jean-Baptiste à l'instant, c'est que le spatial, pour la grande majorité des gens, c'est impalpable. Je ne peux pas vous faire toucher, voir l'espace. Donc, ça n'est que virtuel pour la plupart des gens.
Ouais.
Et c'est en venant sur des sites où on peut concrètement voir le robot en taille réelle, comme celui qui est derrière nous, voir un décollage de fusée, voir un vrai satellite, ou voler en apesanteur dans notre avion R0G. Sinon, c'est juste dans l'imaginaire.
C'est ça,
donc
ouais.
Il faut rapprocher l'espace du public et le public de l'espace en leur permettant de toucher concrètement, de sentir, d'entendre, de voir. C'est pour ça qu'il y a ici une salle IMAX en 3D extraordinaire avec des films tournés par les astronautes, des tas de maquettes, des maquettes de Soyouz, de fusées. Voilà, donc la difficulté de communiquer sur l'espace, contrairement à beaucoup d'autres choses que vous pouvez toucher, vous allez dans un salon de l'automobile, vous touchez les voitures.
Oui, c'est concret.
Mais l'espace, il faut venir à la Cité de l'Espace, par exemple, pour concrètement vous approprier cette nouvelle dimension.
Mais Jean-François Clairvoy, forcément, pour certains de nos auditeurs, cette conquête de l'espace, on a forcément des images en tête, notamment les premiers pas sur la Lune, où tout le monde était devant son poste de télévision. Est-ce qu'on a gardé, d'une certaine façon, quand même encore aujourd'hui, cet enthousiasme-là, ou c'est un peu plus difficile ?
Ah oui, surtout qu'aujourd'hui, les images sont en très haute résolution. En particulier, les satellites européens, on en a deux qui tournent autour de Mars aujourd'hui. Celui lancé il y a plus de 15 ans, Mars Express, il prend des photos à très haute résolution en relief. Et ça vous permet sur Internet de voyager au-dessus de Mars avec une vision en relief qui est la réalité. Et c'est tellement de haute qualité qu'on s'y croit.
Alors, il y a, si je peux me permettre, il y a aussi un autre élément, c'est la dimension de l'incarnation du spatial. Mmh. Et l'incarnation du spatial, elle passe notamment par des astronautes. Regardez le vol de Thomas Pesquet, le dernier astronaute français donc, de l'Agence européenne spatiale, à être parti dans l'espace. Il va bientôt repartir. Et vous verrez, les sondages vont très certainement bouger dans les mois qui vont venir. Vous allez voir ça, voir ça, parce que l'incarnation, elle est fondamentale, et c'est pour ça qu'on tient beaucoup, nous aussi, lors d'événements comme aujourd'hui, à avoir des amis, c'est même pas des partenaires, des amis comme Jean-François. Et Jean-François était à l'inauguration de la Cité de l'Espace avec Claudine Huret, parrain-marraine de la Cité de l'Espace en 97, et nous accompagne comme l'ensemble des autres astronautes français et internationaux.
L'Agence spatiale européenne, avec la dernière sélection dont je faisais partie du jury, a décidé de mettre à disposition de chaque astronaute plusieurs community managers pour vraiment alimenter les réseaux sociaux comme on ne le faisait pas avant. Et ça permet de connecter avec un beaucoup plus grand public.
Ouais. Et on l'a vu avec Thomas Pesquet qui a beaucoup réussi. Ses photos, justement, ont été énormément partagées et commentées, bien sûr.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Et ne bougez pas, on revient dans une poignée de minutes avec André Bercoff et ses invités Jean Slamovitch et Xavier Laurent Salvador, deux des membres fondateurs de l'Observatoire contre le décolonialisme. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Alors avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et ses invités, on va s'écouter un très beau titre pop de Jérémy Frérot, sorti en novembre dernier et déjà classé dans le top 10 d'Apple Music. Le jeune papa y aborde tous les principaux sujets auxquels un homme peut être confronté au cours de sa vie. Voici tout simplement Un homme sur Sud Radio.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change tant de jeu. Lancé, je m'avance. Trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant. Un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un peu de rien, un peu de folie. Un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spleen. Un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid. Un peu chaud, un peu plus bas. Un peu d'ego, un peu de sale. Un peu de salaud, un peu de calme. Un peu de candeur, un peu de vice. Un peu de daron, un peu crise. Un peu nature, un peu glace. Un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi?
un homme pour toi.
Un homme dans le meilleur de Sud Radio, excellent titre signé Jérémy Frérot, extrait de son nouvel album sorti ce vendredi. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. À l'occasion de la mobilisation des 76 universitaires contre le décolonialisme, l'animateur recevait lundi deux des membres fondateurs de l'Observatoire du décolonialisme, Jean Slamovitch et Xavier Laurent Salvador. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors, parlons-en un peu justement, vous avez écrit ensemble d'ailleurs « Le sexe et la langue », sur l'écriture inclusive, effectivement un livre. C'est bien d'ailleurs le sexe et la langue, et ça n'a rien à faire avec une émission de Brigitte Lahaye sur la fellation, je m'empresse de le préciser pour ne pas qu'il y ait... alors, revenons à l'écriture inclusive. Donc ça c'est aussi un témoignage de... parce que c'est vrai que... Oui, c'est vrai que moi, ça m'a toujours fasciné quand c'est apparu. J'ai appelé ça très vulgairement les chures de mouche devenues un des beaux-arts. Mais ça témoigne de quoi ?
Alors, ça va sans doute plus loin que la chure de mouche. C'est-à-dire que nous, ce que nous dénonçons, quelque part, c'est cette idée d'une intersectionnalité qui réunit le décolonialisme et l'écriture inclusive. Parce que nous, nous y voyons une volonté politique de subversion. La République.
C'est pour ça que la politique est là. Oui,
on y revient. Mais c'est une politique
oui.
au sens.
Voilà, au sens large du terme.
Au sens large grec du terme.
Vous c'est dites dire... politique de subversion, ça veut dire.
Absolument. Ça veut dire que la République, elle s'appuie sur des institutions. L'école, la langue et la laïcité. Si vous proposez une réécriture de l'histoire ou une réécriture de la langue, ce que vous affectez en fait en termes de réécriture, ce sont les institutions de la République. Ce que vous attaquez, c'est la République. Et ce que nous dénonçons, c'est que notamment l'écriture inclusive, elle ne se manifeste jamais, vous le verrez dans les discours, on parlait tout à l'heure de « Hey men, hey women », stéréotypes, stéréomeufs en français, elle n'apparaît jamais que dans des discours administratifs. L'objet de l'écriture inclusive, c'est la langue de l'administration. C'est de prendre la main sur l'écriture de l'administration.
Donc prendre le pouvoir, quelque part.
Pas quelque part, c'est prendre le pouvoir. Ce matin, on a republié, j'ai vu tout à l'heure sur notre fil Twitter, un post de professeur d'université en grammaire qui vient d'être publié à l'université de Cergy, de didacticien.ne du lire-écrire en français. Il y a une époque, on aurait appelé ça professeur de grammaire pour l'enseignement. Là, non, c'est didacticien.ne du lire-écrire. Bon, voilà. Je pense que derrière, si vous voulez se sabir, il y a en fait une volonté de subversion des institutions de la République. La laïcité est critiquable selon eux. La langue est critiquable selon eux parce qu'elle est machiste. Et la politique, la France est raciste de manière systémique.
Systémique,
et donc,
bien sûr.
La République est critiquable. Et donc, en fait, on a un communautarisme qui se construit par la subversion des institutions de la République, par un communautarisme frontal. L'écriture inclusive, le décolonialisme participent du même combat.
Alors donc, Jean Slamovitch, donc on a vu ce qui est passé dans certaines universités, les camps décolonisés, interdits à X ou Y ou Z, les discours décoloniaux, les cisgenres et compagnie. Tout ça, en fait, c'est plusieurs entrées pour un même objectif.
Oui, et puis comment dire, c'est une manipulation du langage essentiellement. C'est-à-dire qu'on va introduire des concepts qui ont, ou plutôt un vocabulaire militant qui a l'air d'être, de relever des concepts descriptifs de la sociologie. Ça ne l'est pas, ce ne sont que des faux concepts qui sont en réalité fondés sur la dénonciation, l'oppression, et qui sont toujours binaires. Hein. L'écriture inclusive, par exemple, c'est typiquement le discours qui constitue... D'abord un mensonge factuel qui veut véhiculer l'idée que la langue est sexiste, que ça s'enseigne maintenant dans les universités.
On dit l'imaginaire n'est plus neutre, le masculin n'est plus neutre, il est sexiste.
Et
il est sexiste.
L'imaginaire du français est sexiste. On trouve ça dans les brochures aujourd'hui. Ouais. C'est ça qu'on enseigne
dans les universités, dans des universités.
Absolument. Oui. Et c'est donc déjà c'est une lecture qui au mieux ne peut être que très très symbolique et surtout qui ne correspond pas à la réalité des locuteurs. Mais derrière cette manipulation, eh bien, derrière ce mensonge-là, et c'est fondamentalement dire que la langue est sexiste, bon, Simone de Beauvoir ou Alain de Gouges, je ne trouvais pas le français sexiste, elles avaient autre chose à dire. Et justement, là encore, on déplace le débat du terrain social vers le symbolique. Et quand on est dans le symbolique, on peut dire n'importe quoi. Une fois qu'on est dans l'intérêt interprétation symbolique, justement. Les inclusivistes vont dire, ah, faut mettre des E, faut mettre des points médians. D'autres militants vont dire, non, ça aussi, c'est de la binarité hétéro-patriarcale. Il faut plutôt mettre d'autres symboles pour inclure tout le monde. Et en fait, chacun apporte son regard symbolique. Et du coup, il n'y a plus de langue commune. Et c'est là où ça a un impact politique. Le français est la langue de la République. Et si chaque communauté joue à son séparatisme linguistique, on enseigne quoi après ? On enseigne quelle langue ? On enseigne quel dialecte politique ? Parce que chacun va vouloir revendiquer d'être présent dans la langue, d'avoir son petit symbole. C'est parfaitement destructeur, en fait, de l'unité culturelle.
Est-on arrivé au stade, parce que j'ai dit, corrigez-moi si c'est faux, est-ce qu'on est arrivé au stade où, quand vous écrivez à telle ou telle université, ils refusent de répondre si vous n'écrivez pas en langue inclusive ?
Alors,
je ne sais pas si vous le savez.
On en prend le chemin. J'ai des collègues à qui on a dit votre article sera réécrit en écriture inclusive et si vous ne voulez pas, il ne sera pas publié. Donc, il y a des gens qui peuvent exercer une forme de censure comme
alors,
ça.
Alors,
que personne ne voit, hein, ça se passe dans les coulisses.
Prenez l'exemple du poste dont je vous parlais aujourd'hui. Oui. Imagine-t-on quelqu'un qui réponde à un poste pour être élu professeur d'université, qui est écrit en écriture inclusive, et qui dirait le jour de l'entretien, « Ah non, l'écriture inclusive, pas moi ». Vous voyez bien que la pression, elle s'exerce sur la hiérarchie, tout simplement.
Mais quand on arrive à... On peut pas dire stéréotype, on dit stéréomeuf. Non mais, vous l'avez vu ça ?
Oui, on l'a vu.
Ouais. Bon, et des exemples comme ça, il y en a, et vous en avez, je suis sûr, énormément. Mais alors, si vous disiez, par exemple, est-ce qu'on peut, sans du tout rentrer évidemment l'absurdité de ça, mais alors, si moi, pour m'opposer à ça, je dis, mais écoutez, vous parlez d'école maternelle, non, il faut parler d'école paternelle. Mmh. Non, je veux dire, est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là,
quoi ? Oui, il y en a qui voulaient, au lieu de rendre hommage, rendre famage, qui parlent de matrimoine au lieu de patrimoine, etc. On peut, aux États-Unis, il y a des protections hygiéniques, donc il y a marqué « menstrual ». Eh bien, ils ont enlevé le E, ils ont mis un X à la place pour pas que « men » apparaisse dans le mot. Voilà. Donc, on a ce genre de phénomènes qui sont complètement délirants, mais c'est du marketing politique.
Oui.
Mais comme le disait Xavier Laurent, le problème pour nous, c'est que ça introduit une division politique entre les gens qui pratiquent cette écriture et ceux qui ne la pratiquent pas. Comme c'est un dialecte politique, eh bien, ça contrevient, pour moi, complètement à l'égalitarisme, et ça veut dire qu'on juge les gens en fonction de leur pratique. C'est un jugement moral, c'est un jugement politique, et ça pose de vrais problèmes.
Dans une copie de concours, l'écriture inclusive serait un signe de reconnaissance.
Mais est-ce qu'on est en voie de ça ? On peut dire aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un qui pratique l'écriture inclusive sera mieux noté que quelqu'un qui ne la pratique pas. On n'en est pas encore là.
Non, je ne crois pas qu'on en soit tout à fait là.
J'espère.
Mais on a quand même aujourd'hui une prise conscience militante de la part d'étudiants qui pratiquent l'écriture inclusive comme un phénomène d'affirmation de soi. Et ça pose parfois des problèmes de connivence, y compris au sein de départements d'enseignement, entre les enseignants qui enseignent l'écriture inclusive, les étudiants qui la revendiquent. Et vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement clivant.
Et dans les deux sens, parce que ça veut dire qu'on peut sanctionner quelqu'un parce qu'il a utilisé l'écriture inclusive, ou au contraire, quelqu'un parce qu'il ne l'a pas utilisé. L'intérêt des règles existantes, c'est qu'elles sont arbitraires, neutres et pareilles pour tout le monde. Donc si chacun veut inscrire son identité dans la langue, eh bien, on va vers une fragmentation du social qui est mortifère.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h avec des débats toujours passionnants, bien sûr. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur les élections régionales de Catalogne et leurs dispositions particulières face à la crise sanitaire. On écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Petit tour de table et coup de cœur et coup de gueule. Jean-Luc Benhamia, c'est un coup de cœur ?
Un coup de cœur pour la population catalane qui vit en Espagne. Pour la énième fois, les régionales ont encore eu lieu en Catalogne. Cette fois-ci, une majorité assez forte a été donnée aux ce qu'on appelle les nationalistes, ce qu'on appelle les indépendantistes. L'État espagnol, ou le Royaume d'Espagne, continue régulièrement à annuler les élections au fur et à mesure parce que les présidents de régions qui sont élus successivement et qui sont des indépendantistes font des déclarations, prennent des dispositions puisqu'ils sont majoritaires, et puis le royaume d'Espagne annule et re-annule. Et il y a un principe qui existe dans le monde depuis maintenant le début du XXe siècle qui s'appelle le droit à l'autodétermination. Et en plus, ces populations en Catalogne sont des populations pacifistes, les gens sont élus. Et je rappelle à tout le monde que depuis maintenant près de 3 ans, plusieurs élus, députés, députés européens, sénateurs, sont en prison dans le royaume d'Espagne. Et je trouve ça absolument inacceptable. Et je salue là le peuple catalan qui continue, bon gré mal gré, à élire, à réélire les gens, qu'ils ont, les élus qu'ils ont envie de voir à la tête de la région catalane.
Bon. Moi, je ne connais vraiment suffisamment pas le sujet, mais en tout cas, je pense que nos auditeurs qui le connaissent...
Mary, oui. je reprends Christine, quand même. Oui. En Europe, aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, qu'il y ait des élus en exil, 2 députés européens sont en exil. Alors, heureusement, un certain nombre de pays européens refusent d'extrader ces élus ouais. qui sont en exil en Irlande, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Heureusement. Alors, mais pendant ce temps-là, plus d'une dizaine de personnes sont encore en prison. Espagne ouais. parce qu'ils ont été élus au niveau de la région catalane. C'est absolument incroyable, hein, totalement ouais. incroyable dans le ouais. cadre de la démocratie européenne.
Jérôme, vous êtes catalan.
Oui, alors moi je connais trop le sujet, c'est pour ça donc je suis un petit peu
jugé
parti, tu le sais Jean-Luc. Mais je crois effectivement que c'est le point le plus équivoque et le plus grave que tu viens ouais. de soulever, c'est l'emprisonnement de ouais. ces personnalités, du monde associatif et politique, qui sont emprisonnés et pour lesquels les États européens n'ont pas quand même fait beaucoup de bruit et ne se sont pas trop opposés à la décision.
Même pas du tout, hein.
On
pas
a quand même
tout,
un représentant ouais. aujourd'hui de l'Europe qui s'appelle Josep Borrell, qui est catalan et qui est bien entendu du Parti Socialiste et qui est très 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 fervent partisan de l'emprisonnement des indépendantistes. Et que la France ne réagisse pas alors qu'on va organiser un 3e référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, donc ça veut dire que nous, on n'a vraiment rien à se reprocher. C'est complètement incroyable. Alors que la Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante de la France depuis pas mal d'années. Donc nous, on a fait preuve de maturité. Et là, je trouve que la France est peut-être un peu en deçà de ce qu'elle devrait être par rapport à son rôle de vigie des droits de l'homme.
Ouais. Christine, bon. Christine Bouillot.
Oui, sur ce dossier-là, en tout le cas sur ces rapports franco-espagnols aussi, hein, c'est toujours un tout petit peu étonnant cette façon qu'a la France de regarder ce qui se passe en Espagne. Et pour parler un peu aussi des droits de l'homme en Espagne, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut regarder en ce moment. Ce sont ces manifestations qui ont lieu à la suite de l'arrestation d'un rappeur. Ouais. Parce qu'il aurait, alors je mets du conditionnel, hein, parce que je ne maîtrise pas bien la langue espagnole pour mesurer l'impact des mots qu'il a utilisés, mais il aurait insulté le roi d'Espagne, hein, Juan Carlos, qui, rappelons-le quand même, hein, a pris l'exil. Hein, et il est en prison, et il a écopé de 9 mois de prison pour avoir traité le roi d'Espagne d'après la traduction de canaille. Ouais. Donc je trouve effectivement que ce qu'il se passe étrangement de l'autre côté de la frontière des Pyrénées est assez silencieux du côté des autorités françaises.
Et même de la presse française, hein, on en entend assez française, peu parler. Ouais, alors on a beaucoup de rapports, hein,
absolument. C'est peut-être pas si étonnant que ça que le roi d'Espagne soit allé se réfugier dans le golfe Persique.
Oui. Absolument.
Mais sur la question catalane régionaliste, c'est vrai que pour avoir assisté aux élections plusieurs fois, le silence de la France est particulièrement assourdissant sur l'emprisonnement de ces élus. C'est comme si on emprisonnait des élus régionaux chez nous. Quoi. Voilà tout.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu, comme d'habitude, en humour à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end. Et avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un tube des Pointer Sisters, sorti en tant que musique du film Summer Lovers. Ce titre s'est classé dans la prestigieuse liste des chansons du siècle de la Recording Industry Association of America. Et vous avez tous dansé dessus au moins une fois, j'en suis sûre. Voici I'm So Excited sur Sud Radio.
You, right.
Excited dans le meilleur de Sud Radio, titre incontournable des Pointer Sisters, extrait de l'album Breakout. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mercredi, il a répondu, comme toujours, à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Et il en a profité pour revenir sur la victoire écrasante du PSG face à Barcelone. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Cédric Cizère, bien sûr, qui disait quoi hier sur la défaite du PSG?
Bonjour mes chers compatriotes, écoutez, vous savez...
Je ne vous ai même pas dit bonjour, est-ce que vous avez remarqué?
Ah oui, mais... vous savez que je ne me réjouis ni du malheur des uns, ni du bonheur des autres. Vous savez qui dit ça?
Ouais, non.
Un grand auteur, c'est moi. Voilà, c'est moi. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes football ici, notamment une personne qui, je pense, pourrait vraiment travailler à Téléfoot ou à Canal+. Écoutez,
j'ai 3-1 pour Barcelone.
Ouais. Mais voilà, 3-1 pour Barcelone. Voilà. En voyance, Patrick, c'est pas ça, mais personne n'avait donné la victoire de Paris dans cette équipe.
Non, personne. Sauf que vous avez souhaité la défaite de Paris. C'est
et
pas
je la
pareil,
souhaite toujours. Allez... je la souhaite toujours. Non, mais évidemment que je suis content. Je suis très content. Et d'ailleurs, hier soir, c'était Mardi Gras. Et comme si c'était pas assez compliqué pour moi, ma femme avait prévu le déguisement qui me fait le plus peur au monde.
Mais c'est quoi? C'est Frankenstein, Dracula,
Non, déguisé en joueur du PSG. Pour moi, c'est le pire. Vrai. Non, mais évidemment, je suis content pour eux. Et manifestement, des mecs se sont aussi déguisés en joueurs du Barça. Ça hier soir au Camp Nou, parce que c'est pas possible que ce soit eux qui jouent. En fait, c'était pas les vrais joueurs, c'est pas possible. La dernière fessée,
c'est vrai,
mais ça on a sans rigoler. La dernière fessée que j'ai vue comme ça, c'était un premier samedi du mois à minuit sur Canal+.
Ouais.
C'était triste, vraiment, c'était triste. Et évidemment, il y a eu énormément de paris sur le match d'hier. Ouais. La cote de la victoire de Paris, vous avez vu, était grosse, hein, 4,35. Franchement, si j'avais su, j'aurais misé tout mon compte en banque, 10 euros. Vous n'avez pas joué du coup, non?
Non, j'ai joué 3-1 pour Barcelone.
C'est fou, tout le monde disait on va perdre. Enfin, tant mieux en tout cas. Et les bookmakers anglais, vous avez vu, ils parient aussi sur d'autres choses.
Oui.
Comme sur le prénom du futur bébé du prince Harry et de Meghan Markle.
Meghan.
Ah, ça y est, je parle comme Jean Castex maintenant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, selon le Daily Mail, si c'est un garçon, l'arrière-petit-fils de la reine Elisabeth s'appellera Alfie.
Ouais.
C'est mignon. Si c'est une fille, Alexandra.
C'est bien.
Alors, c'est fou parce qu'ils sont binaires, ces Anglais. C'est terrible quand même. Et un auditeur m'a laissé un message à ce sujet.
Bonjour, je suis Hervé. Je vous appelle de Cognac, la ville où je vis et où je bois.
Ah, super.
Les Anglais font des paris sur le futur prénom de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Mmh. Alors moi aussi, mes potes, ils avaient fait un pari pour la naissance de mon fils. Mais ils n'ont pas parié sur le prénom. Non, ils ont fait des paris pour savoir lequel d'entre eux était le père de mon fils.
Mais non.
Heureusement, ils se sont trompés. Finalement, le père... c'était le livreur Uber Eats.
Eh ben c'est bien de l'avoir retrouvé.
Au moins, on sait qui est le père. C'est ça qui est quand même pas mal. Alors, les bookmakers anglais parient vraiment sur tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
Quelle sera la nouvelle coiffure de Jason Statham? Au bout de combien de temps un couple marié va divorcer? Combien de pommes noisettes la reine d'Angleterre va manger à midi? Moi, j'avais parié 22 pommes noisettes, c'était 23. Je suis dégoûté. Et les Anglais, ils font vraiment rien comme les autres. Vous avez vu ça, hein? Ce sont les seuls au monde qui trempent des haricots blancs dans leur Nesquik.
Oui.
Les seuls au monde qui prennent du plaisir à jouer au cricket alors que ça n'a aucun intérêt, hein, on le sait. Et ce sont les seuls au monde qui boivent plus d'alcool que les Bretons. C'est quand même. C'est vrai. C'est vrai, hein, mais en même temps, ce sont les grands Bretons.
Déjà, c'est le niveau
Bretons.
Est haut.
Ce sont des cousins.
Eh bien, ce sont les cousins, ce sont les grands Bretons. C'est bien pour sûr. Ça qu'on les appelle. Allez, mais sachez
Patrick suivant. Est Breton, attention.
Bonjour Cédric, c'est Gérard Pagon, j'appelle toujours du Loir-et-Pas-Cher.
Ouais.
Ah, moi je suis un fan de bolide, hein, comme disent les jeunes. Hein. Je suis un passionné de Bugatti, Ferrari et de 4L.
Ah.
Je viens d'ailleurs d'acheter une 4L de 1961 sur le Bon Coin.
Oh,
je l'ai payé 15 euros, elle marche, nickel. Faut juste être toujours au moins 4 personnes quand on roule avec. Une personne au volant et 3 qui la poussent.
Ah oui, c'est ça,
c'est
faut
la
avoir 4L, des bons amis.
C'est la 4L, vous avez vu que les passionnés de voitures, ils étaient déjà tous surexcités par le retour de la Renault 5. Mmh. Et bien voilà, c'est l'overdose de bonheur, puisque la 4L fera aussi son grand retour. Alors il ne manque plus que le retour de la Renault Fuego Turbo, hein, que j'adorais.
Oui.
Elle était belle, ça, la Renault Fuego.
On appelait ça la Porsche du pauvre.
La Porsche, c'était ma Porsche, du coup, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Alors, bon,
attendez,
mais oui, quoi.
La Fuego, mais elle était...
Elle était très belle.
Bah, bien sûr.
Regardez sur Internet.
Mais tout le monde ne roule pas en Porsche. Hein,
bah, non, surtout
la
pas moi.
La Fuego, elle était très belle.
Bah, oui,
mais
pour
oui,
l'époque.
Mais pour l'époque, c'est
magnifique. C'était la 924.
Vous allez voir. Déjà, on va parler de la 4L, puisque la 4L, pour ceux qui ne voient pas, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ne voient pas à quoi ça ressemblait. Ouais. En gros, imaginez une énorme poubelle en plastique, mais avec des roues. C'est ça un petit peu la 4L.
Non, c'est exagéré.
Regardez. Et tous les gens de votre génération, ils ont eu quoi? La Renault 5. La Renault 5, vous avez la Renault 5 tous les deux, c'est obligé. La séquence émotion tout de suite, préparez-vous.
Non, moi j'étais la 4L.
La 4L
J'insiste.
Et je sais que vous aviez une Renault 5, on va remonter le temps, quelques minutes.
Jamais.
Pour revivre votre jeunesse, Patrick. Ouais. Attention, musique. Patrick, on est en 1985, l'époque où quand on cherchait une information, on ne pouvait pas aller sur Internet, mais on ouvrait un livre qui pesait 39 kilos. Ce livre regroupait à lui tout seul tout Internet en seulement 4000 pages. Le quid. Patrick, en 1985, vous êtes dans votre Renault 5 édition spéciale Gilbert Montagnier. Il n'y a ni airbag, ni vitre électrique. Le bouton de chauffage est cassé. Dans la voiture, il fait donc 47 degrés, été comme hiver. Patrick, vous avez des bras aussi musclés que Sylvester Stallone. Pas parce que vous faites de la muscu, mais parce que la R5 n'a pas la direction assistée. C'est pour ça que vous êtes musclé. Vous avez les cheveux gominés, votre jean est tellement moulant que pour l'enlever aujourd'hui, il faudrait que vous preniez un RTT. Vous foncez rejoindre Patricia, que vous avez demandé en mariage la veille dans votre QG, la poutre apparente à la queue en brie. Votre QG, c'est la boîte où vous vous trémoussez sur Besoin de rien, envie de toi de Peter Eslon. Ce soir, pour Patricia, vous avez sorti le grand jeu. Vous avez loué une cassette au vidéoclub, un film romantique, Massacre à la tronçonneuse. Vous arrivez au point de rendez-vous qui fait rêver toutes les femmes, le parking du mammouth. Vous attendez Patricia, vous l'attendez encore, il n'y a pas de téléphone portable. Donc ça n'existe pas, vous passez la nuit à l'attendre en vain. Vous ne saurez que le lendemain matin que Patricia a préféré passer la nuit avec votre meilleur ami de l'époque, celui qu'on surnomme Philou le Coquinou, plus connu aujourd'hui sous le nom de Philippe Bilger. Et voilà. Philippe Bilger, déjà à l'époque, vous piquez toutes vos meufs. Ah là 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 là, je sens que vous avez
nostalgie. Il y a pourtant une petite différence de génération.
Une petite, il n'y a que 45 ans d'écart entre vous. Mais voilà, on est tous nostalgiques de cette époque, bien sûr. Hein. Et ceux qui sont nostalgiques, c'est qui ? Ce sont les artistes, les comédiens, les chanteurs, qui sont toujours dans une incompréhension
mais
totale.
C'était la 4 chevaux.
La 4 chevaux, c'est vrai.
Avec Philippe Bilger.
La casse-vous, Philippe. Non, mais c'est pour ça, excusez-moi. Donc, ceux qui sont nostalgiques, ce sont les artistes, les chanteurs, qui sont toujours dans une incompréhension totale, hein, avec les décisions du gouvernement, qui empêchent les gens de s'asseoir dans des salles de spectacle, mais qui peuvent s'asseoir dans un avion. Les seuls spectacles qui ont encore lieu actuellement, ce sont quand les hôtesses de l'air donnent les consignes de sécurité. C'est le seul spectacle qui reste, en fait. C'est ça qui est triste. Et Roselyne Bachelot va faire des spectacles test, qui débuteront en mars ou en avril. Elle n'a pas dit de quelle année. Et une auditrice a voulu nous en parler.
Bonjour Cédric, je suis Anne Fatima, j'habite dans une ravissante bourgade entre la Normandie et les Pyrénées. Hier soir, je suis allée voir le premier concert test organisé en secret par le gouvernement pour voir si une salle de spectacle devenait forcément un cluster. Ouais. C'est Mylène Farmer qui a donné ce concert. Eh bien, sachez qu'après ce concert de Mylène Farmer, j'ai pas attrapé le Covid, non ? J'ai attrapé une bonne dépression.
Mylène Farmer, on adore Mylène Farmer. Mais c'est pas moi, ce sont les auditeurs.
Non, je parle de cette charmante Fatima.
Anne Fatima, voilà. Bah oui, et alors, pour finir, justement, sachez qu'un des beaux gosses du cinéma, Pierre Ninet, m'a écrit, il tweet beaucoup sur ça, hein, il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu demandes à un autre beau gosse, Jean Castex, quand il rouvrirait les salles de spectacle et les cinémas, parce qu'on n'en peut plus. Eh bien, voici en exclusivité la réponse de Matignon.
Il en connaît du monde.
Ben oui.
Française, Français, le gouvernement tient à prouver son soutien à tous les artistes quant à la réouverture des théâtres.
C'est bien.
Il est temps d'organiser une réunion meeting afin de vous donner une visibilité précise.
D'accord.
Cette réunion aura lieu le 31 février.
Ah bah alors c'est compliqué. Ouais. Il se moque du monde un peu, Jeannot, là. Je sais pas, hein, mais bon.
Bah vous lui avez demandé une date, il vous en a donné. Ça va jamais, vous êtes jamais content.
C'est vrai, je suis jamais content. Je vais aller me coucher parce que je suis trop énervé.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin, Sud Radio. Et merci à tous d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et excellent week-end à tous.